Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous présenter les trois romans de Jean-Laurent Del Socorro. Deux romans de fantasy historique et un de fantastique historique. Bref, vous l'avez compris, cet auteur s'inspire beaucoup de l'histoire pour développer ses romans et pour chacun d'entre eux, je vous rafraîchirai la mémoire en même temps que la mienne, avec un petit rappel des événements utilisés. Alors, en route, et pour bien commencer, voici une présentation de l'auteur que je vous mets en lumière aujourd'hui. Jean-Laurent Del Socorro est un auteur français de 42 ans qui est également assistant éditorial chez ActuSF. Comme beaucoup d'auteurs œuvrant dans la SFFF, il nous arrive tout droit du monde du jeu de rôle. Ses trois romans, Royaume de Vent et de Colère, Boudica et Je suis fille de rage, ont été publiés chez ActuSF. Il a également publié plusieurs nouvelles dans diverses revues et anthologies. La première nouvelle, La mer des mondes, est disponible gratuitement en numérique chez Le Bélial. Si vous désirez avoir une première approche de son style, vous aurez bien entendu le lien en barre d'informations. Je vais donc vous présenter chacun de ses romans en commençant par le premier. Royaume de Vent et de Colère. Ce livre a été publié en 2015 et remporté le prix Elbakin.net 2015 du meilleur roman de fantasy français. Il prend pied dans les guerres de religion à Marseille. Mais d'abord, faisons le petit rappel. Au XVIe siècle, l'Église est en pleine décadence, faisant payer les fidèles pour les absoudre de leurs péchés. D'où le schisme religieux entraînant l'apparition des protestants ou autrement appelés huguenots, reniant le pape et la hiérarchie catholique, et revenant aux fondamentaux de la Bible. C'est suite à cet événement que la crise religieuse a secoué les pays chrétiens. Le point d'orgue en France a été le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Bon, je vous fais un rappel hyper édulcoré pour passer rapidement à ce qui nous intéresse, mais si le sujet vous intrigue, tapez dans une barre de recherche « Réforme religieuse au XVIe siècle », il y en a eu plusieurs successives. Alors, dans Royaume de Vent et de Colère, on se trouve en 1596, 2 ans avant l'édit de Nantes, dans la ville de Marseille la catholique, souhaitant devenir indépendante en opposition au roi Henri IV, n'ayant de cesse de retourner sa veste entre catholicisme et protestantisme, et qui marche sur la ville avec son armée pour mater la rébellion. À l'intérieur des murs, on va suivre divers personnages qui ont chacun leur passé, leurs épreuves dont on connaîtra tout au fur et à mesure et qui se trouvent rassemblés dans une même auberge, la Roue de Fortune, tenue par Axel et Gilles. On rencontre le couple d'amants, Armand et Roland, qui tentent de fuir le pays pour que leur magie ne les mette pas en danger. Le roi Henri IV utilise les mages pendant la guerre mais ne se soucie pas du prix à payer pour son utilisateur. On rencontre également une vieille femme, Victoire, qui est la chef de la guilde de Marseille, et son bras droit est un assassin. Gabriel est un chevalier, et c'est le personnage qui cristallise le mieux la thématique de la guerre de religion qui secoue la France à cette époque. Et pour finir, on a Axel. C'est LE personnage que j'ai préféré au niveau du travail autour de sa psychologie. Rongé par les regrets, qui aspire à retrouver sa vie d'avant sur les routes en tant que mercenaire. Elle aime son bébé, son mari, mais elle n'est pas heureuse. Elle rêve de repartir à l'aventure et rien que cette pensée la ronge de culpabilité. Vous vous en doutez, si tous ces personnages se trouvent au même endroit, il y a fort à parier qu'ils auront tous un rôle à jouer dans la rébellion qui couve. Je vous laisse le découvrir. Le second roman est Boudica. Il a été publié en 2017 et a remporté le prix des Imaginales des bibliothécaires 2018 ainsi que celui de la meilleure couverture. Pour le petit rappel, Boudica est également connue sous le nom de Boadicée et c'était une reine celte du clan des Icènes sur l'île de Bretagne, l'actuelle Angleterre. Les sources sont peu nombreuses à la citer, seuls Tacite et Dion Cassius, des historiens grecs, la mentionnent dans leurs travaux. Dans l'interview réalisée par Le Chroniqueur, le lien sera également dans la bio, l'auteur nous apprend qu'il s'est servi des recherches archéologiques pour étayer son récit. Boudica est un roman qui s'apparente à une biographie saupoudrée de magie. Il y a juste ce qu'il faut pour nous présenter cette femme guerrière et nous donner envie de creuser la question. Le roman est découpé en 3 parties. On nous présente d'abord son enfance-adolescence. Avec son père roi des Icènes, elle est naturellement l'héritière et sera également formée au combat, comme tout un chacun chez les Celtes. La seconde partie sera sur sa façon d'aborder son rôle de femme et de mère. Et la troisième partie, on sera face à la reine guerrière qui se soulève contre les Romains. Ce roman est l'occasion d'apprendre quelques petites choses sur les Celtes et sur le clan Icène, leur rapport avec les envahisseurs romains au fil des ans, leur rapport entre hommes et femmes. Tout le monde est formé dans l'art de la guerre, les Romains étaient très choqués de voir des femmes dans les rangs ennemis, et les mœurs sexuelles étaient très libres et pas uniquement hétérosexuelles. Le soupçon de magie vient des croyances celtiques. Les dieux accèdent ou non aux demandes des fidèles, à vous d'y croire ou non. Il est temps que je vous présente le tout dernier roman, « Je suis fille de rage », qui est paru en octobre dernier. Il a pour cadre la guerre de sécession. Pas besoin de rappel sur le moment des faits ou le personnage dont on va parler, étant donné que « Je suis fille de rage » retrace l'intégralité de la guerre civile. Ce qui l'a déclenché, comment elle s'est conclue et ce qui en a découlé. Le livre est divisé en 5 parties, une par année de conflit de 1861 à 1865. Les divers généraux et le président Lincoln sont utilisés dans le roman. On a des coupures de presse, des extraits de lettres et de journaux qui sont inclus dans l'ouvrage entrecoupés de parties romancées. Pour bien suivre le déroulé des événements, le travail éditorial autour du livre est également important. Chaque début de chapitre est marqué par un drapeau, nous indiquant pour quelle partie le soldat mène le combat, Yankee ou Dixie. On a également les lieux et dates des batailles, et une carte se trouve au début du roman pour qu'on se situe aisément. Au début du conflit, le nord des États américains était industrialisé, alors qu'au sud, il y avait encore les plantations de tabac et de coton avec l'utilisation d'esclaves noirs. Ces deux points, le capitalisme avec l'industrialisation de tout le pays comme modèle à suivre et l'abolition de l'esclavage seront les sujets de la fracture du pays. On va parler de l'absurdité de cette guerre et d'une guerre fratricide. Des Américains du Nord peuvent aller combattre pour les armées confédérées et inversement, et cette fracture se répandra jusqu'au sein des familles. Vous allez me dire, mais t'es pas censé nous parler uniquement de littérature de l'imaginaire ? J'y viens. La touche fantastique dans ce roman sera l'utilisation de la figure de la mort. Elle prendra la forme d'un soldat entièrement blanc et elle restera principalement dans le bureau de Abraham Lincoln, à comptabiliser les morts, chaque mort, que causera la guerre du président, quel que soit le camp du soldat décédé ou des civils. La mort est totalement neutre, toute vie est importante. On la verra de temps en temps également sur le champ de bataille quand les destins de certains personnages prendront un tournant. Mais au fait, Lincoln voit-il réellement la mort ou la culpabilité de ce pays à feu et à sang au nom de ses principes lui fait-il perdre la raison ? Voilà, littérature SFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si un de ces romans vous fait envie, pensez à votre libraire ou passez sur le site internet Place des Libraires afin de commander votre exemplaire auprès d'une librairie indépendante. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année et d'avance. Bonne année 2020. Salut !